Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Vous écoutez
RMC. RMC, Rotten sans flamme.
Oh, la belle frappe! Oh, le but exceptionnel de Mamadou Niang. Le but peut-être. Oh, il est magnifique. Jérémy Ménez sur le toit de la Serie A ce soir.
C'est parti pour Juninho. Oh, Juninho, maître dans l'exercice du coup franc.
Le multiplex.
Bah, t'es pas tout seul dans Rotten sans flamme, Jérôme, t'es entouré.
Mais qu'est-ce que c'est?
Il y a Mamadou Niang, Jérémy Ménez, il y a Juni, voilà.
J'ai tué mon multiplex.
Il était debout.
Il a levé les doigts.
Il était debout avec les doigts levés.
Je suis à deux doigts de quitter l'émission.
Déjà?
Déjà. Ça fait mal au cœur pour les auditeurs.
Bah quoi?
Ah, parce qu'ils ont des frissons à chaque fois, ils sont habitués.
Ah là, je pense que les Lyonnais.
Pourquoi changer les habitudes
de...
comme ça?
Je pense que les Lyonnais sur
le but de
Juninho.
Tu crois que le but de Juninho, ils ont pas les poils là?
Quand même.
Bah, je sais pas, c'était quel coup franc. Tu te souviens?
Il y en a eu tellement.
Ah, c'est Lionel Letizy, ça compte pas. Hein. Ah, il plongeait dans les filets.
C'était juste contre le Barça. C'était juste contre Barcelone.
Ah, contre Barça, ouais, ça va. Ah,
bah, on aurait pu mettre deux contre Oliver Kahn aussi. Il y en a eu plein.
Ah, Oliver Kahn,
gardien, avec le Bayern.
Il y avait un gardien au Barça?
Ah, on était contents quand il s'est mangé le poteau.
Ah, ouais, Oliver Kahn.
Il s'est mangé le poteau, bam,
ah ouais.
Là, avec sa tête, là, bam. Tiens.
Et Juni rigole.
Bon, voilà, on va rire à
t'as
comme ça, Jérôme.
Les gardiens,
parfois, ça reviendra sur toi. Et puis, parfois, les autres membres de la Dream Team ont le droit de croquer aussi.
Vous l'avez fait cette semaine, c'est très bien. Mais la semaine prochaine, on revient au classique.
On verra. Ouais. Bon, le multiplex Ligue 1, ce sont nos correspondants en région qui sont mobilisés pour nous amener toutes leurs infos et leurs débats. On les accueille tout de suite. On est avec Edouard G à Lyon. Salut Edouard.
Salut Dodo. Salut à tous.
Ciao, salut Dodo. Avec
salut,
toi.
Salut Johnny. Salut Lionel.
Salut Edouard.
Avec toi, on va bien sûr évoquer l'actu autour de Peter Bosz et le match de Lyon à Lens. C'est l'une des affiches. C'est l'affiche du dimanche soir à 20h45. Lens, où s'est trouvé aujourd'hui Jean Baumel, notre correspondant le Nord. Salut Djibo.
Salut Jean-Louis. Salut Jérôme, Lionel, Johnny. Bonsoir Djibo. À tous.
Salut, bonsoir.
Avec toi, on va se demander si Lens est vraiment outsider contre Lyon. C'est ce qu'ils disent à Lens. On va voir si vous êtes d'accord avec ça ou pas tout à l'heure. On est également avec Xavier Grimaud dans l'Ouest. Salut Xavier.
Salut bon Xavier. Bonsoir messieurs.
Semaine mouvementée pour le stade brestois. On en parlera avec toi. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter pour
j'en
la fin de saison?
On nettoie la douche, j'espère.
Oui, la douche chez Benaïli. Brest est à Auxerre dimanche à 15h. Et toi, tu es en direct d'Angers. On parlera d'Angers-Marseille également avec toi. Et puis, on est avec Maxime Tilliette sur la Côte d'Azur. Salut Maxime.
Salut les amis. Salut Maxime. Bonsoir Maxime. À tous. Alors, très sympa ce générique, hein, vraiment.
Ah, t'as bien aimé, toi?
Ah, ouais, bah,
toi, pour une fois, t'as eu les poils.
Bah, tu vas pas revenir.
T'es de la Côte d'Azur, toi? T'es sur la Côte d'Azur. Tu...
Mais faut varier, on me parle de toi tous les jours.
Tu veux qu'on déchire la carte de presse ou quoi?
Avec toi, on parle de PSG Nice. On va se demander si Ineos a rendu ce club inentraînable, puisque les entraîneurs se succèdent et ont du mal à Nice. Et puis un mot également sur Monaco-Nantes, dimanche à 17h. On commence par Lyon donc. Gros match au week-end à Lens, avec donc cette menace d'ultimatum sur les épaules de Peter Bosz. Même s'il n'a pas confirmé clairement les infos de Fabrice Hawkins d'RMC, on vous a annoncé il y a quelques jours 17 points à prendre sur les 7 matchs qui viennent d'ici à la Coupe du Monde, sinon ce sera terminé. Alors est-ce que c'est utile de mettre un tel ultimatum sur ses épaules ou est-ce que c'est déjà une façon de le condamner? 32-16 pour débattre. Edouard, dans l'histoire de l'OL, quand on a entendu des histoires d'ultimatum comme ça, ça sentait pas bon.
Oui, mais vous savez, récemment, un proche d'un ancien coach passé par justement la case OL en molle rouleau compresseur me disait le schéma lyonnais, tout le monde le connaît par cœur et c'est en quelque sorte, on est en train de vivre la dernière masterclass entre Rhône et Saône juste avant le changement capitalistique américain à venir. Alors le premier acte, c'est une spirale négative de résultats. Le deuxième acte, c'est une sortie d'un lieutenant de Jean-Michel Aulas dans la presse avec des propos, alors certes tenus sur des objectifs, mais plus ou moins vagues, et des propos qui peuvent facilement être sortis de leur contexte ou contestés par les acteurs, une sortie à double lecture, le tout en mode digital 2.0, comprenez, avec un tweet de confiance générale lancé par le Big Boss. Le troisième acte, tout cela installe une petite musique qui fait croire qu'il y a un ultimatum, car on s'y perd en mode origine du monde, qui de la poule ou de l'œuf a fait naître ce passage obligé. Est-ce un cap réel, chiffré, clair, indiqué de vive voix, les yeux dans les yeux, est synonyme de limogeage en cas de faux pas, tout devient flou. Et le quatrième acte, on fait parler le capitaine sur les réseaux du club en disant que c'est aux joueurs d'en faire plus et qu'ils sont derrière le coach. Et devinez, eh ben, la période actuelle coche toutes les cases. Et ça me fait penser furieusement à l'époque de Claude Puel, qui a vécu d'ultimatum en ultimatum presque à chaque fois dans ses trois saisons avec Lyon. Alors, le seul bémol pour Peter Bosz, quand même, qui rend peut-être la période plus tendue et l'ultimatum plus pesant, bah, c'est qu'il en est à 3 défaites consécutives, une première depuis 4 ans. Ah ouais. Et que pour retrouver trace d'un 4e match perdu consécutivement, il faut se mouiller la nuque, brasser beaucoup de poussière et remonter haut dans les archives. Imaginez-vous, saison 89-90, 32 ans.
Ouais. Non, mais il faut pas se cacher. Il faut pas se cacher derrière. S'il a pas de bons résultats, il faut s'en séparer. Il va partir. Dire, au bout d'un moment, t'entraînes Lyon. Moi, je reproche.
Mais donc, ça veut rien dire, c'est l'histoire d'ultimatum.
Non, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. Parce que, en fait, dans un vestiaire, et on a connu des vestiaires qui étaient ambitieux, des clubs qui étaient ambitieux. Et si t'es ambitieux, tu peux pas te permettre de perdre 4 matchs de suite dans l'année, même si le calendrier est pas forcément favorable, et il était favorable en début d'année. C'est comme ça, surtout après une année dernière très compliquée en termes de résultats, où tu fais pas de Coupe d'Europe. Lyon, c'est un grand club, c'est le deuxième budget de France. Donc automatiquement, t'attends à ce que Lyon il soit proche des premières positions au classement, et je les vois mal attendre la fin de saison si il venait à perdre à Lens, si Lyon perd à Lens, 4 défaites de suite, comme l'a dit Edouard, dire c'est une nouveauté depuis 90. Ah, franchement, il faut que ça.
Mais du coup, est-ce qu'il est pas déjà condamné en fait, Bosz?
C'est très très compliqué, Jean-Louis et Lionel.
À partir du moment où tu mets l'ultimatum, ça veut dire qu'il est condamné.
Non, il est pas forcément condamné parce qu'il y a toujours une petite chance.
Ça veut dire quoi? T'attends une réaction du vestiaire
les joueurs peuvent être avec lui. Moi, je suis pas au quotidien avec eux. Moi, j'espère juste que Monsieur Aulas, Monsieur Ponceau, Monsieur Chéroux, ils sont assez clairs avec Bosz, c'est tout. Mais à mon avis, ils l'ont été. On sait pas tout. Mais dans le discours, tu peux pas te permettre quand t'es à Lyon de perdre autant de matchs, et surtout que même les matchs quand tu les as perdus, t'as pas toujours été bon, quoi que disent certains. Donc
mais tu penses que c'est en mettant un ultimatum que tu vas les gagner?
Oui. Ça met une pression. Qu'est-ce que tu as? Alors si
parce
tu dis
le mec, il a pas la pression déjà. L'entraîneur, il a pas la pression. D'après mais toi, il perd les matchs.
C'est la façon d'y faire, non, Jérôme? Parce que bien sûr, tu fais ça à porte fermée. Tu discutes avec le coach. C'est la réalité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de bons résultats, coach. Mais à porte fermée, tu discutes, tu expliques. Mais à chaque fois, ça devient public, c'est bien fatigant, ça mine une énergie de merde. Ah, tu arrives pour travailler, c'est pas bien ça. Bien sûr que t'as pas un vestiaire qui va te défendre parce que, plusieurs raisons, j'ai pas envie de parler là. C'est la façon de faire. Arrêtez d'y faire toujours le bordel au club. Il lâchait, tu parles à un, tu parles à
autre. Oui, des petits
Johnny, tu sais quoi, Johnny, j'ai l'impression, moi, vu dehors, et toi, tu le connais mieux que moi, mais vu de l'extérieur, que c'est en fin de compte, c'est se désolidariser à chaque fois, et c'est pour se donner une certaine raison. Mais cette raison-là.
Voilà, c'est ça.
Et ça, je.
Pour ne pas assumer aussi.
Bien sûr.
C'est facile, tu le coach va partir, toi. Déjà, pourquoi tu parles de foot? T'es pas un directeur sportif, Ponceau. Tu dois pas t'y mêler là, déjà. Tu t'y mêles publiquement. Tu mets ton entraîneur en difficulté. Ça se fait pas. Donc,
Mais bien sûr
qu'il doit défaire d'affilée.
Il y a 2 ans, mais ils mettent un mec, Bosz du sportif, et un mec qui connaît pas le football. Dès après, le départ, comment après, il peut avoir des positions après, juste
les gars. Michel Aulas, il connaît l'entreprise, il l'a mis là en lui faisant confiance.
D'où s'est sorti cette info? Alors bravo pour ton travail.
C'est Fabrice Hopkins qui a sorti cette info.
De Fabrice, mais d'où s'est sorti en fait ça?
C'est ce que j'expliquais, c'est très flou en fait. C'est à un moment donné, Vincent.
C'est l'OL. C'est l'OL. C'est ça, c'est l'OL actuellement. Il n'y a personne qui, ici, en ce moment, connaît plus l'OL qu'Edouard. Donc c'est flou, complètement. C'est ça, c'est la réalité.
Mais oui.
En fait, c'est Vincent Ponceau qui donne une interview noir sur blanc au frère du Progrès, où il est dit qu'à la fin de l'année, à la fin de la saison, l'OL doit être sur le podium et qu'il y a des résultats intermédiaires à connaître à la fin, notamment au moment de la Coupe du Monde du mois de novembre. Mais à ce moment-là, il ne dit pas de chiffres, il ne dit pas de place.
Il ne se pose pas de questions, non, Edouard? C'est facile, non? Toujours pointer du doigt.
Non, non, mais en fait, on lui pose la question par rapport à ça, donc il répond. Et derrière, c'est ce que j'expliquais, en fait. C'est repris, mal axé par les réseaux sociaux. Et au final, on sait plus si vraiment il y a un ultimatum. C'est quelque chose qui est un petit peu vague. Et puis, ça met une petite musique qui est un petit peu bizarre. Et bien évidemment.
Mais Doudou, si tu veux saccager ton vestiaire, tu peux pas t'y prendre autrement. Franchement. Faut arrêter.
Oui. Les dirigeants ne prennent pas conscience de la situation. Après, c'est leur rôle aussi de mettre la pression.
Non, mais Juni a tout dit. Il y a des choses. Ça doit. Faut arrêter aussi de savoir dans la presse que tous les journalistes veulent savoir ce qui se passe et tout ça. À un moment donné, il y a des choses. Ça doit rester dans un vestiaire.
C'est pour ça, Lionel.
Il y a des choses.
C'est
pas
pour
les
ça,
dire.
Lionel et Juni.
Dans la famille, quand t'as des problèmes, tu règles tes problèmes en famille. Tu vas pas les mettre sur la place publique.
Lionel, tu as raison.
Faut arrêter les conneries à un moment.
Tu sais très bien, et encore plus aujourd'hui avec tout ce qui est mis en place, l'info à la minute avec les réseaux sociaux, que tout sort. Et c'est pour ça que je demandais ça à Edouard, comment ce flou est arrivé et comment on a su en effet s'il y a l'ultimatum ou pas.
C'est pour tout préparer, Jérôme, avant. Oui, oui. Tu lâches un truc ici, tu lâches un truc là et tu te protèges, c'est jamais ta faute, c'est la faute de l'autre. C'est ça, c'est une habitude. C'est comme je dis, c'est un peu comme la politique. C'est pas forcément la réalité qui compte, c'est la narrative. Qui gagne la narrative a raison. Donc c'est un peu comme ça, c'est dommage. Bon, ça va continuer comme ça, j'espère pas, parce que la semaine dernière, le match contre PSG, je pense que l'OL il a fait un bon match, peut-être qu'il a mérité mieux, même s'il y a 3 défaites derrière, ce match-là, il est encourageant, comme tout le monde dit, oui, ça fait longtemps qu'il y a des matchs encourageants, c'est vrai, ça aussi, mais bon, on perd pas d'avance, hein. Il y a un match à faire dimanche, il faut se concentrer, parce que ça va être très, très dur jouer contre cette équipe de Lens.
Mais après, Johnny, t'as connu
comme ça, Jérôme, si tu travailles comme ça, Jérôme, c'est pas sain.
Non, non, on est d'accord.
Bien sûr. À la fin, ça va pas marcher.
Bien sûr.
Tu vas vivre un bon week-end.
Mais en fait, c'est pour ça, Johnny, parce que moi, en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors, c'est le lot des grosses équipes avec des grosses ambitions. Quand t'as pas de résultats, malheureusement, tu coupes la tête de l'entraîneur. Et c'est le premier fusible. Tu peux pas virer les 23 joueurs. On est d'accord. Après, il y a des façons de faire. Moi, ce que je reproche juste aux dirigeants aujourd'hui, fuiter ou pas fuiter, est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas fait exprès? Toi, Juni, tu les connais mieux que moi. Donc,
c'est une habitude.
Si c'est une habitude, c'est grave. Par contre, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, nous dire, il y a des résultats intermédiaires, comme l'a dit Edouard. Tu dois prendre 10, si c'est 17 points sur 21, ça veut rien dire.
Non, mais en plus, tu t'y dis, Jérôme, tu vas jouer les 5 prochains matchs. Si on n'a pas 15 points, tu joueras plus.
Mais t'as raison, c'est ridicule. Non, mais ça, c'est ridicule.
C'est match par match. C'est le foot professionnel, ça. C'est pas.
Mais non, mais ça.
Et qu'est-ce qui se passe s'il y a 16 points et des matchs incroyables?
Non, mais c'est ça, c'est pour ça, parce que.
Ils vont le virer quand même.
Là où c'est ridicule, c'est que une saison de foot, déjà, c'est long. Tu peux avoir des périodes où tu gagnes moins et tu prends moins de points, mais ça se construit. Et de la première journée à la dernière journée, normalement, t'es ensemble, le staff, les joueurs, le club, les dirigeants, les supporters, et que tu vas avoir des moments où tu vas être moins bien, et des moments où tu vas être mieux. En effet, en ce moment, c'est dur en termes de résultats, mais peut-être qu'ils sont en train de construire quelque chose. C'est pour ça que ça veut rien dire. C'est 17 points sur 21.
Allez, on va laisser Lyon
côté.
Ça a
toujours fonctionné comme ça dans l'histoire de l'OL. Okay. Ça a toujours fonctionné comme ça.
Bah, tu nous l'as raconté tout à l'heure.
Pas toujours.
Allez, on va laisser Lyon de côté. Lyon et Talence donc dimanche à 20h40. On va parler d'ailleurs des Lensois dans une seconde avec Jean Baumel, parce qu'eux, ils se voient pas favoris face à Lyon. Alors, est-ce que les Lensois sont vraiment outsiders? On continue le débat autour de cette rencontre dans une seconde. Et puis, les premières infos dans le tour des stades également. On a des infos à vous donner sur Cherki, sur l'effectif lillois, sur Angers, sur Monaco. Restez avec nous, c'est le multiplex de la 9e journée de Ligue 1 sur RMC dans Rotten sans flamme.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h18 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. C'est le multiplex de Rotten sans flamme de ce vendredi soir. Oui, on se projette, on se lance sur cette 9e journée de championnat. Oui, on a hâte. Ça fait 15 jours que les clubs ils sont au repos. Il y avait la trêve internationale. On a hâte que ça reprenne à partir de ce soir. Angers-Marseille, ne ratez pas ça à 20h45 en direct sur RMC, comme tous les matchs et toutes les grands événements sportifs. Bien sûr, on est avec Jean-Louis Tour, avec Lionel Charbonnier et avec Juninho.
Et sur RMC. annoncée. Les journées de Ligue 1 débutent dans Rotten sans flamme, dans le multiplex de 19h avec les infos et les débats de nos correspondants. On est avec Jean Baumel, Maxime Tilliette, Xavier Grimaud et Edouard G. Alors on est sur Lens-Lyon avant le premier tour des stades, messieurs. On a beaucoup parlé de Lyon, parlons de Lens, Djibo. Est-ce que les Lensois sont outsiders sur cette rencontre? C'est ce qu'ils ont dit en tout cas en conférence de presse.
Alors Francaise ce midi en conférence de presse, je pense qu'il a voulu un peu calmer l'ambiance quasi parfaite du côté du Racing, hein, puisqu'on le rappelle, ils sont quatrième, 18 points, meilleur début de saison de l'histoire du club. Ils sont sur une série avec la saison dernière de 16 matchs sans défaite, mais il dit voilà, faut quand même pas oublier qu'il y a des équipes comme Lyon. Bah, c'est quand même le deuxième voire troisième budget, hein, quasiment ex-aequo avec l'Olympique de Marseille. Il dit normalement Lyon devrait en gros être à notre place, hein, dans le top 3. Sauf que ce n'est pas le cas. Le budget Lyon c'est 250 millions, Lens c'est 62. Et voilà, il y a aussi d'autres équipes comme l'OM, comme Rennes, comme Nice, comme Monaco, qui logiquement, voilà, dit normalement nous on devrait être 7-8e, on surperforme depuis 30 mois. Ce mot-là il l'a utilisé à plusieurs reprises dans la conférence de presse. Donc voilà, c'est, il met en garde un peu tout le monde. Voilà, tout le monde se voit le Racing Club de Lens dans le top 3 voire le top 5. Voilà, il voulait calmer un peu l'embellie actuelle, parce que ils vont enchaîner quand même Lyon, et après il y aura tout simplement le derby contre Lille, il y aura un match contre Marseille. Donc le menu lensois est pas mal dans les prochaines semaines.
Donc Aze il fait de la com, mais vous messieurs qui faites pas de com, Lens ils sont favoris non face à Lyon? Favoris, les meilleures non. équipes que Lyon sur le début de saison.
Oui mais j'irai pas jusqu'à là. Déjà Lens, alors attention, hein, bravo à leur parcours pour l'instant, quasi sans faute pareil, hein, ils sont vraiment totalement dans les clous, ils ont bien compensé les départs, ils dégagent une grosse force collective comme on est habitué du côté de Lens depuis X mois. Après là, oui, là la montagne elle s'élève. Lyon c'est un gros de notre championnat. Quand tu joues le PSG c'est pareil. Les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, et donc c'est des vrais tests à chaque fois. Et je peux comprendre que Francaise et son staff soient vigilants, si tu veux, en disant attention. Aujourd'hui, en termes d'ambition, de projet sportif et financièrement, Lyon est pas dans la même catégorie que nous. C'est la réalité. Mais ça sera pas simple pour autant pour les Lyonnais d'aller s'imposer à la Lens.
Yo.
Ouais, je suis d'accord avec Jérôme, bien évidemment. Quand tu regardes cette différence, c'est un budget qui est multiplié par 4 quand même par rapport au Lensois pour les Lyonnais. Donc c'est vraiment
une fois sur le terrain.
Alors après, voilà, quand tu regardes ça, tu dis Lyon doit être favori. Après, à l'heure actuelle, mais en plus il y a quelque chose. Il faut savoir aussi que Lyon est une, alors j'aime pas trop cette expression, mais on a l'habitude de l'employer, une bête blessée comme ça. Attention, parce que les joueurs doivent réagir pour leur public, pour leurs supporters, pour tout ça. Ils ont des capacités. C'est un effectif qui est quand même extraordinaire. Cet effectif de Lyon face à ces Lensois.
Alors t'as le plus problème, de certitude quand le niveau s'élève du côté de Lyon.
Mais c'est la vérité. Bien évidemment. Alors après, le tout est de savoir qu'il faut que ces joueurs Lyon, se mettent saison, tout d'un coup.
Non, mais des joueurs, okay. Je te parle.
Mais c'est une équipe qui joue quand même.
La difficulté maintenant, c'est de mettre toutes ces individualités à jouer ensemble contre ces Lensois. Donc, si tu regardes purement sportif comme ça, sur un coup, ça peut être compliqué. Sur un coup. Mais
ça, c'est un sport d'équipe, Jérôme, le foot, c'est pas que des individualités.
Non, mais après
même les individualités aujourd'hui,
t'arrives après la trêve internationale, t'as plein de choses qui se sont passées,
Juni, attention. Comment tu vois la saison des Lensois?
Bonne, comme la saison dernière aussi. C'est une équipe qui joue vraiment ensemble, qui a cette conscience de leurs limites. Donc, quand t'as cette conscience-là, tout travaille vraiment ensemble. Mais il y a un super joueur, Fofana, au milieu, qui fait beaucoup de différence. Il y a Costa aussi, qui c'est pas mal. Sotoka aussi, qui on parle pas, mais c'est un joueur très intéressant. C'est pas la finesse technique, mais avoir un joueur, en attaque comme ça, pour jouer surtout contre une équipe comme Lyon, ça peut faire mal. Mais, bon, Lyon, ça reste une équipe qui a de la qualité, mais c'est une équipe très irrégulière. On sait pas quelle équipe on va voir dimanche. Ça dépend de la semaine de travail. Ça dépend de plein de choses, parce que ça manque des leaders, ça manque beaucoup, beaucoup de choses encore. Mais, comme tu dis, Jérôme, il y a quelqu'un qui peut faire la différence n'importe quel moment. Mais Lens, aujourd'hui, il jouait à Lens. Ah, ça sera très très dur dimanche.
Dimanche 20h45, Lens-Lyon, 19h23, tour des stades, messieurs. 4 infos en rafale. On y va avec les infos. Et ben justement, à Lyon, Edouard, sur Ryan Cherki, malgré son impatience, c'est toujours pas un titulaire pour Peter Boss.
Ouais, ça pourrait le devenir. Pourquoi pas ce week-end à Lens? Et s'il quittait son statut de super sub qu'il a endossé à 7 reprises pour 3 passes décisives en 97 minutes, eh ben, Pieter Bos l'a laissé entendre aujourd'hui. Je mets bien une pièce quand même qu'ils sont en soutien d'Alexandre Lacazette, parce qu'en plus, Moussa Dembélé est incertain, tout comme Corentin Tolisso. Et Pieter Bos qui va devoir aussi trouver un défenseur central, puisque Castelo Luqueba est blessé. Et pour l'instant, son cœur balance entre Damien Da Silva et Sinali Diomandé. Mais une petite pièce quand même sur Ryan Cherki, titulaire à Lens, okay. Pour mettre de la vie, pourquoi pas.
Il y a moins d'interrogations à Angers, qui a peut-être trouvé son 11 pour le match face à Marseille. Et ce soir, 21h, Xavier Grimaud.
Oui, 2-0, 4 défaites de suite, des désaccords dans le club, mis sur la place publique par Batic. Ça tanguait fort, et puis il y a eu ces 2 victoires de suite avant la trêve. Enfin, face à Montpellier et à Nice, avec un nouveau 11, un nouveau système, le 4-4-2, qui a été reconduit lors des 2 succès, et qui devrait logiquement être reconduit à nouveau ce soir, avec Boufal, Unai, Unou et le Sénégalais Sima en attaque. Alors on verra si les internationaux marocains ne sont pas trop émoussés avec les matchs en sélection. En tout cas, Angers va mieux, et l'OM ce soir, ce sera évidemment un test XXL pour les Angevins pour aller chercher la passe de 3.
En parlant d'effectifs, il y a une équipe qui a aucun problème. C'est Lille à Lorient dimanche 13h, Jean Baumel.
Ah, c'est la première fois de la saison que Paulo Fonseca dispose de tout son effectif. Alors ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est le retour de Cabella, hein, qui faisait un petit peu défaut lors des derniers matchs. Alors il sera peut-être pas titulaire, hein, il disait que c'était risqué de peut-être le mettre d'entrée, mais en tout cas il devrait jouer certainement en deuxième période. Et puis les retours donc de Zegrova et Wea, donc Lille aura un gros morceau quand même face à Lorient à 13h dimanche.
Et puis Monaco qui reçoit Nantes dimanche 17h avec une problématique au poste d'arrière droit, Maxime Tilliette.
Oui, puisque Ruben Aguilar sera absent plusieurs semaines. Il a eu une inflammation au pied qui s'est un peu empirée. Alors Vanderson certes est là, mais Philippe Clément est un peu embêté parce qu'il va pas le faire jouer les 11 prochains matchs prévus en 42 jours d'ici la Coupe du Monde. L'entraîneur belge a fait monter quelques jeunes pour les tester. Il pense aussi à décaler Dizazi à droite pour éventuellement jouer dans une défense à 4, ou sinon et bien mettre un piston plus offensif dans cette défense à 5, Gelson Martin sous Crépin Diata par exemple.
Merci messieurs pour ces 4 infos. On revient dans une seconde pour la suite de ce Multiplex Ligue 1. Faut-il s'inquiéter pour la fin de saison à Brest? Et Ineos à Nice a-t-il rendu ce club inentraînable, puisque les entraîneurs se succèdent et les échecs sont là? On continue le débat dans une seconde dans Rotten sans flamme. À tout de suite.
RMC 18h20, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h30 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme, la dernière demi-heure de la semaine de Rotten sans flamme. Et oui, et puis ça va monter en puissance, parce que il y a le quiz de Julien Cazard en effet à 19h45. Et là on continue notre multiplex avec tous nos correspondants. On se lance sur cette 9e journée de championnat avec Lionel Charbonnier, Juninho, Jean-Louis, ouais. Tour bien sûr, et puis tous nos correspondants, alors, ils sont là.
Juste avant de repasser sur le multiplex, le quiz c'est tout à l'heure, tu l'as un peu évacué, mais c'est très grave ce qui se passe. Jérôme peut avoir la cuillère de bois s'il fait 5 défaites en 5 jours. Rendez-vous 19h45.
Il n'a pas intérêt à l'avoir acheté
avec
ou l'avoir
quelque part. Non mais je n'ai pas acheté.
C'est où elle va finir.
Moi je suis avec toi Jérôme, je suis ton joker. Moi j'ai envie que tu gagnes.
On ne peut pas lui mettre un ultimatum à Jérôme.
Vous pouvez vous inscrire en envoyant top par SMS au 732-16.
Tu peux mettre un ultimatum, mais le problème, tu vas rentrer.
Non mais si tu ne gagnes pas ce soir, t'es viré.
Tu vas rentrer
comme ça dans les
listes. Le million d'auditeurs qui nous écoutent encore ce soir, et je vous embrasse tous parce que je sais que vous me soutenez.
Mais moi aussi,
pas le quiz ce soir, non, t'es viré. La cuillère de bois, c'est inadmissible.
Moi, je suis ton joker, c'est incroyable.
De toute façon, tout seul, j'arriverai à faire l'émission.
Tu crois que ton joker, il est corrompu?
Mais non, c'est incroyable. Moi, je suis là pour l'aider. S'ils inventent des trucs, là.
Ouais. Vas-y, lance.
Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ça.
Moi, je suis avec lui, bloc.
Lance.
Oh la vache, t'es un faux cul comme ça, toi.
On parlait de quel match. On est sur la 9e journée de Ligue 1. On est toujours avec Jean Baumel, Xavier Grimaud, Edouard G et Maxime Tilliette. On va justement parler de Nice.
C'est pas les plus affûtés, hein. Mais ils sont bons.
Ah, Maxime, il a futé. PSG Nice, c'est demain, 21h. Et côté niçois, il se passe plein de trucs autour des entraîneurs depuis longtemps. Est-ce que Ineos a rendu ce club inentraînable? Il y a de quoi se poser la question, Maxime.
Ouais, en tout cas, il fait pas bon être entraîneur à Nice ces derniers temps, c'est sûr. Le club est riche et ambitieux. Alors, les effets d'annonce sont là, mais les résultats suivent difficilement. Et quand ça marche d'un point de vue comptable, comme l'an dernier, eh bien, il y a des problèmes extra-sportifs qui viennent tout perturber. On en a pas mal parlé sur cette antenne. Là, Ineos y était pour rien. En revanche, pour ce qui est de la situation actuelle, on le sait, les entraîneurs sont les premiers fusibles quand ça va pas. Mais Lucien Favre ici subit quand même le travail des personnes au-dessus. C'est pas lui qui a souhaité empiler des joueurs au profit similaire ou d'autres pas complémentaires. On lui a imposé des mecs et il se retrouve un peu à gérer des joueurs avec des gros CV dans son vestiaire, dont certains qui rentrent pas forcément dans son schéma de jeu. Et bien, résultat sur le terrain, ça prend pas encore, c'est brouillon et Ineos s'impatiente.
Jérôme. Alors Ineos s'impatiente, mais ils maintiennent quand même.
Franchement, qui mettent de l'argent et qui changent leur stratégie, parce que pour l'instant c'est la Bérésina dans ce club depuis qu'ils sont là. Ils nous vendent du rêve chaque année. Chaque année les entraîneurs ils viennent. Alors là, Favre, il fallait le virer pendant la trêve internationale. Ils ont pas trouvé de remplaçant, donc maintenant c'est lui l'homme de la situation. Alors vas-y, vive l'ambiance quand même avant un déplacement.
C'est-à-dire qu'ils t'annoncent qu'ils vont virer l'entraîneur et puis ils le font avant d'aller en chercher un autre.
Et déjà ils le
c'est un truc de fou.
Non mais on peut parler de Lyon.
C'est-à-dire que si tu veux saccager ton vestiaire, là aussi tu peux pas faire autrement.
Exactement. Non mais on parlait de Lyon, mais là c'est puissance 10 à Nice, à ce qui se passe. Franchement, moi je dis bon courage à Favre. Et déjà qu'il a pas eu le recrutement qu'il voulait.
Il a été recruté quand? C'est le dernier recruté au mercato. Franchement, juste avant la fin du mercato.
De quoi qui?
Favre.
Non, Favre, il est arrivé après le départ de Galtier. Mais déjà, avant l'annonce du départ de Galtier, il voulait le prendre déjà. Oh, il était annoncé assez tôt.
Non, l'effectif était de support. Vous êtes certain que l'effectif a été fait en collaboration avec lui?
Moi,
je suis pas certain.
Non, mais lui
Max, tu sais ça?
En fait, Favre, il est arrivé au tout début de l'intersaison pour la reprise avec le groupe. Mais sauf que le groupe, il a été totalement.
Tu dormais ou quoi avec ton cheval?
Non mais c'est vrai qu'il n'a pas eu trop de droit de regard sur l'effectif.
Moi je parle du recrutement.
Oui, non, mais c'est Ineos qui a fait le recrutement dans son coin. Parce qu'il a découvert l'existence de Ramsey, de tous les Anglais qui ont été pris au dernier moment. Ça là-dessus oui, mais il a quand même été nommé très tôt.
C'est-à-dire que aujourd'hui, si je fais moi la synthèse de Nice, ils sont en train de juger un entraîneur.
C'est même
voilà,
pas
voilà ce qu'on te donne. Voilà. On t'a mis ça à l'effectif. Exactement. Maintenant, démerde-toi avec ça. C'est-à-dire que là, déjà, t'as tout faux.
Ils ont tout faux.
S'il y en a un qui peut en parler, c'est Johnny.
Et aussi parce que ça, Christophe Gauthier, il a pas laissé un modèle de jeu non plus.
Oui, en plus.
Donc, l'année dernière, c'était pareil, non? Presque, Nice. Donc, on comprenait pas trop comment ils jouaient. Bon, à chaque fois, comme il dit souvent, Christophe Gauthier, que j'ai eu une expérience, avec lui, pas très bonne.
Ah oui.
Donc, il dit souvent 4-4-2. Oui.
Avec Alain Perrin.
Non, tu veux dire avant de prendre Boss.
Avant de prendre Boss. Oui, exact.
Oui, je raconte. Donc, on a du mal aussi à comprendre Nice. Donc, j'ai aussi du mal à analyser un peu. C'est une équipe aussi qui a pas de modèle du jour. Par exemple, j'ai eu beaucoup de choses à l'OL parce qu'Amine Gouiri est parti, parce qu'on disait que c'était le nouveau Benzema. Comment tu changes ton meilleur joueur, qui la presse l'a dit l'année dernière que c'était lui, par un autre attaquant de 28 ans?
Ouais, ça c'est difficile donc, de comprendre.
Oui, donc il y a des choses qu'on voit là-bas qu'on a du mal à comprendre, mais je pense que quand on regarde quand même l'effectif, ils ont fait maintenant revenir la Borde pour jouer avec Delors devant, et ça a bien marché à Montpellier.
Oui, mais ça, Johnny, ça a bien marché à Montpellier, dans un club qui était moins ambitieux que Nice, on est d'accord. Donc, pour viser le haut et passer les 3-4 meilleures équipes du championnat, avec Delors et la Borde, attention, j'ai beaucoup de respect pour ces deux-là, mais je pense que c'est très limité quand même.
Et le problème à Nice, c'est pas le niveau de l'effectif, c'est qui décide en fait. Le joueur est là par Favre, par Ineos, par River.
Moi, l'effectif, le recrutement, je le trouve pas si mal que ça, honnêtement.
Nicolas Pepe, il est là, non?
Oui, Nicolas Pepe.
Oui, mais lui, c'est pareil, Juni. Pepe, il est là. Quand tu vois les moyens de Ineos et du propriétaire, et ils veulent s'inscrire dans la durée en haut du classement et venir concurrencer les meilleures équipes du championnat. Tu prends Pepe sans option d'achat.
Oui, mais bon, ça peut-être qu'Arsenal ils n'ont pas accepté de mettre une option. T'as pas de choix au dernier moment.
Oui, mais d'accord, mais Johnny, toi qui a été directeur sportif et qui l'est encore et qui le sera certainement peut-être encore un jour. Je suis désolé. Je pense que tout ça se prévoit. Quand t'as un projet ambitieux sur plusieurs années. Comment tu peux te retrouver en fin de mercato à se dire, tiens, il nous manque un mec là, sur le côté droit, tiens, on va faire Pépé.
Ouais, mais si t'as l'opportunité de le faire sans...
L'idée n'est pas mauvaise.
Mais
le problème, c'est que la stratégie de départ, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, Nice recherche un directeur sportif. Juninho, prépare ton téléphone, on sait jamais. Mais Nice, on savait par exemple qu'il y avait besoin d'un arrière-gauche depuis de belles lurettes. Milieu de saison passée, Nice se fait prêter un Jordan Amavi sur une jambe. On savait qu'il n'allait pas prolonger après son prêt de 6 mois. Il fallait un arrière gauche. Et c'est Joe Bryan, un inconnu qui arrive de Fulham en fin de mercato le dernier jour, qui débarque. Alors qu'il y avait une piste qui devait être préparée depuis des mois et des mois. C'est pour ça que ça manque de stratégie.
Ce qui est très compliqué, ce que les gens ne comprennent pas aussi, et les dirigeants en premier, c'est-à-dire ce n'est pas parce que tu mets un effectif, un très bon effectif. Moi, je trouve que cet effectif, il est bon.
C'est clair, non?
C'est pas pour autant que ça va marcher.
Mais si tu n'entres pas dans ton, si tu n'entres pas dans la conception de jeu de l'entraîneur, tu peux mettre l'entraîneur il a une autre conception de jeu.
Déjà la conception de jeu de Favre, tu la connais toi, comme l'a dit Juni.
Mais en tout cas, il n'y arrive pas. C'est peut-être que lui, il voudrait le voir autrement.
On arrête là sur Nice.
Certainement, mais ils veulent pas l'entendre.
Est au Parc demain 21h.
Bon courage. L'un des gros matchs. Si perdent, ils vont être bien dans le classement.
Alors, on va se tourner vers Xavier Grimaud. On va parler de Brest, mais attends, juste avant, quelle est cette histoire de friteuse à Angers, Xavier?
Et oui, on a failli avoir une alarme qui vous aurait cassé les oreilles, puisque il y avait un message en français et en anglais disant d'évacuer le stade en raison d'émanations de vapeurs. Et après renseignement de Pierre-Yves Leroux, qui est avec moi pour le match à Angers, ce sont des vapeurs de friteuses.
Voilà. Bah, Jeannot, il n'est pas à Angers pourtant.
arrête avec Jeannot un peu.
Je peux te dire, il va vous retirer les vapeurs, Jeannot.
Il y a quel an qu'ils ont fait les frites.
Oui, Thibaut, t'as raison.
La tribune toute neuve. Dans la tribune toute neuve, ça n'arrive pas à Bollard, ça, évidemment.
Oui, ils sont habitués aux vapeurs de frites.
Bon, tout est rentré dans l'ordre et je suis là pour te parler de Brest.
Il n'y a pas de frites gate. Merci, Xavier. D'accord. Donc, Brest, effectivement. Brest est à Auxerre dimanche à 15h. Et il y a peut-être matière à s'inquiéter pour la fin de saison des Brestois. Ah ouais. Ils ont connu une semaine mouvementée.
Est-ce que Pascal Olmeta a chié dans la
baignoire? Non, mais non, c'est Belaïli qui
a fait ça.
Il n'y a pas grand chose qui va. 19e, 5 points, une seule victoire, une claque historique face à Montpellier. Souvenez-vous, 7-0 à Leblé, une prestation avant la trêve qui était vraiment catastrophique. C'est pas moi qui le dis, hein. Tout le monde l'a vu avec cette défaite face à la Lanterne Rouge.
Mais Xavier, on s'en fout de tout ça. Raconte-nous la baignoire, plutôt, c'est plus sympa. Belaïli, comment il a laissé l'appartement?
Bah dans un état pitoyable, on en a parlé. Alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est ses potes, parce qu'il y avait toujours du, monde, mais effectivement la maison était dans un état déplorable. Ça c'est l'une des raisons de sa résiliation de contrat et ça rajoute encore non pas la sinistrose, mais l'ambiance qui n'est pas du tout bonne en ce moment à Brest. La trêve elle a pas été calme à cause du flop Belaïli. Der Zakarian avait prévenu avant la trêve ceux qui ne veulent pas travailler restent chez eux. Donc Belaïli peut-être pour ça qu'il a résilié, parce qu'il avait pas l'air de vouloir beaucoup bossé. Et cerise sur le gâteau hier en commission de discipline, un point avec sursis pour jet de projectile, un briquet qui est arrivé près de l'arbitre de la rencontre lors du Brest-Strasbourg. Der Zakarian qui a chargé ses supporters en conf ce midi, moi je suis d'accord avec lui, en disant qu'il faut que les supporters arrêtent, on les a prévenus, on ne doit pas lancer des choses, s'ils veulent pénaliser le club maintenant, on arrête les conneries. Donc ça c'est encore une ambiance en plus parce que les supporters sont pas forcément contents de la façon dont il a réagi. Avec tout ça, il y a un match à Auxerre dimanche, un match que Brest doit gagner face à un promu. Der Zakarian, souvenez-vous, il avait eu du mal à mettre sa patte déjà sur son groupe en début de saison dernière. L'équipe, elle avait commencé à gagner à la fin du mois d'octobre.
Il y avait une série incroyable.
Ouais, avec 6 victoires de suite qui les avaient propulsés dans la première partie de tableau. À voir cette année si le rebond peut être le même. Est-ce qu'il peut y avoir un bis repetita? On a le droit peut-être de douter un peu plus cette saison à 4 descentes.
Oui, moi je suis d'accord avec toi sur le fait de douter parce que ce que tu as réalisé l'année dernière, ça ne te donne pas des assurances de le refaire cette année. L'effectif, il est moyen dans tous les cas, mais de toute façon ça va aussi avec le budget de Brest. Mais attention que ça se s'enclenche encore pas très bien, parce que là un mauvais résultat à Auxerre face à un promu, derrière l'engrenage, tu tombes vite dans le trou.
On en reste là, messieurs, pour ce multiplex de la 9e journée. Merci, messieurs.
Merci, les gars.
Edouard G, Maxime Thibiet, Xavier Grimaud,
plein de buts, les gars, plein de
Jean Baumel. Bonne frite à tous, évidemment. Et comme d'habitude, je vous le rappelle, RMC Seul Radio vous propose tous les matchs en intégralité, tous les matchs de Ligue 1. Ça commence ce soir avec Angers-Marseille à 21h. Magnifique. Ça se finit dimanche avec Lens-Lyon. Tous nos correspondants, nos envoyés spéciaux mobilisés tout au long du week-end. On revient dans une seconde pour un moment de sport important. Jérôme va-t-il remporter cette cuillère de bois? Il faut absolument éviter la défaite dans le quiz.
Exceptionnelle.
Dans une seconde. À tout de suite.
À tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.